Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Concrètement. Cette semaine, je reçois Julien Coriolan. Bonjour Julien.
Bonjour Pascal.
C'est la deuxième fois qu'on se voit. Donc je suppose qu'on va encore parler de DevOps.
Exactement.
Et cette fois-ci, on va parler d'une nouvelle étape dans le processus DevOps qui est le Release Management.
Ouais, on va parler en fait de l'étape suivante par rapport à la dernière fois.
Donc la dernière fois, je rappelle, on avait parlé d'intégration continue.
Donc on avait rappelé un petit peu ce que c'était DevOps d'abord, l'aspect culturel, l'aspect process et puis l'aspect outillage. Et donc du coup, la dernière fois, on avait parlé intégration continue. On était plutôt sur la phase de développement et de test. Donc en résumé, l'intégration continue, c'est automatiser des builds, donc le packaging d'une application, une production de binaires quand c'est nécessaire, et l'exécution de tests unitaires chaque fois qu'un développeur va faire un commit. Et ça, ce qu'on avait vu, c'est que ça nous générait un livrable. Et donc là, aujourd'hui, on va parler déploiement continu et release management, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour livrer ce livrable, pour faire en sorte qu'il passe en production en respectant certaines étapes qui vont nous permettre en fait d'assurer la qualité qu'on souhaite avoir lorsqu'on arrive en production pour que l'utilisateur soit satisfait de l'application.
Ok, donc là, si on regarde le dessin qu'on a sous les yeux, ça va être à peu près la phase 3. Hein,
c'est la phase 3.
Qui consiste à produire des livrables dans différents environnements.
C'est une transition de la phase 3 où on a le livrable et où on le passe en production.
D'accord, ok.
Okay. Et donc du coup, avant de parler de production et de release management à proprement parler, je voulais juste revenir sur une notion dont on entend beaucoup parler quand on parle de DevOps et qui est importante. Enfin, faut bien faire attention de faire la différence entre du déploiement continu et du release management et de la mise en production en tant que telle. Le déploiement continu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'action de dire qu'on va prendre des sources, on va faire une build, on va les compiler, on va les intégrer et on va les déployer dans la foulée, dans un environnement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on accepte de faire dans un environnement de dev, dans un environnement de test, mais qu'on va rarement faire sur de la production. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, à chaque fois qu'un développeur fait une modification dans le code source, on déploie une nouvelle version sur la production. C'est un petit peu...
Évitons.
C'est un petit peu osé. Et surtout, dans une build, on peut faire des tests unitaires. On peut faire des tests peut-être un peu plus poussés, mais on loupe quand même un certain nombre de choses, comme des tests de charge, comme des tests d'interface graphique, des tests fonctionnels faits par des vrais utilisateurs. Et donc, il y a tout un process de qualité quand même qu'on va essayer de respecter. Et c'est là, en fait, où la partie release management va vraiment nous aider. Puisqu'en fait, plutôt que de faire du déploiement un peu brut sur un environnement, on va avoir plusieurs environnements et on va gérer un workflow de déploiement entre ces différents environnements. Donc sur la slide ici, on peut voir qu'on a un environnement de dev. Donc en général, celui-là, on va déployer automatiquement dessus puisque c'est le dev, c'est pour se rendre compte de l'application. S'il y a des bugs, au final, c'est pas grave, on peut rectifier le tir avant que ça passe ailleurs. Et puis, on a un environnement de recette et un environnement de production. On aurait pu pousser un peu plus loin et avoir plusieurs environnements de test, plusieurs environnements de recettes, etc. Parce que l'idée du release management, c'est de dire qu'on va produire le package de l'application ou le binaire une seule fois, et ensuite, on va le faire transiter d'environnement en environnement. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'en fait, à partir du moment où on fait une build, potentiellement, le résultat de cette build, s'il y a eu une modification de code source ou autre, il va changer. Donc si on refait une build avant de déployer sur chaque environnement, on ne va pas forcément avoir la même application qui est déployée. Donc si je valide quelque chose en dev et en recette et que je le rebuild pour passer en prod, potentiellement ce ne sera pas la même chose et ça pourrait introduire un bug.
Tout à fait.
Donc du coup, on va avoir besoin d'un outil qui nous permette d'une part de builder, donc ça on l'a vu la dernière fois dans la vidéo sur l'intégration continue, on a utilisé Visual Studio Team Service, et on va avoir besoin d'un outil qui nous permet de gérer cette release et de gérer ce workflow avec certains déploiements qui vont se faire de manière automatisée et d'autres déploiements qui vont être soumis à approbation, sachant qu'on peut très bien imaginer sur des projets un peu complexes d'avoir une validation au niveau de l'équipe de développement pour pouvoir le passer sur un premier environnement pour faire des tests de charge, par exemple, où là, on va avoir une équipe dédiée aux tests de charge qui vont faire ces tests et qui vont dire « Ok, on met le tampon, l'appli, elle peut passer à la phase suivante », où on va avoir des tests fonctionnels, où on va avoir, pareil, des testeurs qui vont mettre un tampon sur l'application pour que ça passe en pré-production. Et puis, à la fin, le responsable du projet qui appuiera sur le bouton rouge pour passer en production. Mais l'idée, c'est d'arriver à fluidifier et à automatiser au maximum.
Oui, c'est pas de mettre des freins.
C'est pas de mettre des freins.
Au contraire.
Au contraire. En fait, l'idée, c'est que on rappelle un DevOps. Le but ultime de DevOps, c'est de mettre tous les acteurs du projet derrière un même but, qui est de réaliser la meilleure application possible, le plus rapidement possible, et d'apporter tout le temps des nouvelles fonctionnalités en continu. Mais ce qu'on disait aussi, c'est que ça ne doit pas se faire au détriment de la qualité. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire on va livrer en prod un petit peu à l'arrache, si je puis dire. Il faut quand même valider un petit peu cette qualité. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ce type de workflow où il y a juste une personne à un moment donné qui va dire « Ok, je suis d'accord, je valide ». Après, on peut le faire comme ça. On peut choisir aussi juste de faire une chaîne complètement automatisée sans forcément d'étape de validation si on en a envie. Et donc, du coup, pour ça, on va avoir quand même besoin d'outils, donc je l'ai dit, Visual Studio Team Service d'un côté pour gérer l'automatisation, mais on va également mettre en place ce qu'on appelle de l'infrastructure as code. Donc on en a parlé un petit peu dans la vidéo précédente. L'infrastructure as code, l'idée, c'est de décrire l'infrastructure cible dans laquelle l'application va être déployée. Donc quand on est sur Azure, par exemple, on va avoir quelque chose qui s'appelle Azure Resource Manager, qui va me permettre d'écrire des scripts en JSON qui vont tout simplement déclarer mon infrastructure. Donc là, en l'occurrence, on va reprendre l'exemple de Vorlon.js qui est déployé dans une application web, donc une web app dans Azure App Service. On a utilisé du PaaS, mais on pourrait en infrastructure as code décrire des infrastructures beaucoup plus complexes avec plusieurs VM Windows et Linux, etc., etc.
C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en mode PaaS, mais on peut être en mode IaaS avec,
tout à fait.
Comme tu le dis, plusieurs machines virtuelles, il peut y avoir également des VNet, il peut y avoir des load balancers, il peut y avoir tout un tas de choses que, en fait, c'est quelqu'un qui fait partie des Ops qui va pouvoir faire ça.
C'est ça.
Et donc là, il va utiliser les mêmes outils que les développeurs pour gérer ces sources qui décrivent ces descriptions d'environnement cible.
C'est exactement ça, et avec l'avantage, en fait, de mettre dans le même repository de code source, les sources de l'application et les sources de l'infrastructure, en fait. Alors, avec Azure Resource Manager, c'est quelque chose, donc on décrit un script, il est intempotent, on va pouvoir le répéter X fois sur l'infrastructure, ça va…
Un script déclaratif, donc c'est de la déclaration plutôt que du script, mais…
Oui, effectivement, c'est du déclaratif.
C'est ça qui…
Et donc, du coup, ça va vraiment permettre de dire « Ok, il faut que je redéploie à un moment donné une version de mon application. Bah, je reviens au niveau de mon code source dans la version où j'étais il y a 6 mois. J'ai l'application telle qu'elle était, j'ai l'infrastructure telle qu'elle était. Je rejoue tous ces scripts-là de déploiement et je me retrouve avec mon application telle qu'elle doit être à l'instant où je veux la débugger, par exemple. »
Dans l'environnement, dans son infrastructure également,
dans son infrastructure.
À la version correspondante.
Et j'ai pas à me poser la question de comment est-ce qu'on avait fait l'environnement à cette époque-là, dans quel ordre est-ce qu'on avait installé les différents composants applicatifs, puisque là, on parle d'infrastructure as code, puisqu'en l'occurrence, dans cet exemple-là de Vorlon, on a une web app relativement simple, mais on pourrait aller aussi sur de la configuration as code, c'est-à-dire qu'on va également stocker potentiellement dans le contrôle de code source ou alors dans des outils externes comme du chef ou du puppet par exemple, des éléments de configuration, et on va orchestrer tout ça pareil dans notre process de release management. Je crée mon infra, je crée mes machines, elles contactent ensuite mes serveurs de configuration, elles se configurent, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'automatiser toutes ces étapes pour fluidifier au maximum et surtout limiter le risque d'erreur, puisque plus on automatise ça, moins on risque à un moment donné de se tromper dans un ordre d'étape.
Et puis on peut dire également que ce principe permet d'assurer, entre guillemets, on n'est jamais à 100%, mais de garantir autant qu'on peut que ce qu'on a déployé en dev, ce sera la même chose qu'on va déployer en recette et ce sera encore la même chose qu'on va déployer en production, moyennant les paramètres spécifiques à chacun des environnements.
Oui, qui vont être liés en fait là pour le coup à la configuration, effectivement. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment de prendre les sources et de les envoyer dans chaque environnement, mais enfin de les compiler et puis ensuite d'envoyer la même chose dans chaque environnement.
Cool. Et donc
Ce que je te propose, c'est qu'on jette un coup d'œil à ça. Et donc, je te propose de repartir de là où on en était resté à la dernière vidéo, donc la partie intégration continue. Et ce que je t'avais montré la dernière fois, c'était que au-delà des tests unitaires, etc., on peut voir que tout se passe bien, c'est vert, c'est super. C'est que le principe de la build, c'est de générer des artefacts. Et que dans ces artefacts, on avait plusieurs choses. On avait d'une part un deployment package qui contient mon application web à déployer sur Azure Web App. Et on a ensuite un certain nombre de scripts qui sortent aussi en output et qui sont au final directement dans mon projet applicatif. Donc ces scripts-là, ils sont dans GitHub.
Ils ne sont pas transformés, ils sont simplement transférés.
Voilà, ils sont juste transférés dans l'output, dans le drop de ma build.
D'accord.
Et donc du coup, bah, si je vais sur mon GitHub, dans ma branche de dev ici, je retrouve ici mon dossier Deployment Tools avec ces différents scripts. Donc j'ai un script Dockerfile qui me permet de générer mon image Docker. Et j'ai par exemple ici un deployment template .json qui va contenir la définition de mon infrastructure. Donc ici en l'occurrence je vais avoir un hosting plan et une web app. Donc je suis sur Azure App Service.
Parce que toi tu fais du PaaS.
Parce que moi je fais du PaaS. J'ai mes différentes ressources qui sont décrites ici. Et ce script là en fait je vais l'utiliser pour deux environnements. Pour mon environnement de développement. Donc j'ai un petit script ici qui me permettra de donner des paramètres à mon environnement de développement pour dire à Azure en fait, mon site il s'appellera vorlongjs-dev, mon hosting plan s'appellera vorlongjs-dev-hostingplan et je vais utiliser un tiers de facturation basique ici pour mon application.
Donc ça ce sont les paramètres que tu associes au JSON précédent pour avoir une instance.
Exactement.
C'est l'instance de dev en l'occurrence, c'est ça ?
Ici, c'est le dev et je vais retrouver un fichier très similaire pour ma pré-prod. Où là, mon application va s'appeler différemment. Et si tu as fait attention au repository, j'ai un autre script ici pour la production. C'est-à-dire que j'ai une infrastructure qui est différente en production. Donc du coup, j'ai un autre script avec des autres paramètres. Et donc si je regarde ce script-là, en fait, il y a un peu plus de choses à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que je vais utiliser déjà une autre SKU Azure pour déployer, un autre pricing tier qui me donne accès à plus d'options. Et également parce que je vais choisir de déployer automatiquement de l'application Insight pour faire du monitoring de mon application. Je n'ai pas besoin de le faire en recette ou en dev. Donc je ne l'avais pas fait, je vais faire ça qu'en production. Donc là, je vais utiliser un autre script avec des autres paramètres. Et donc voilà. Donc du coup, ça me permet vraiment de modéliser, de déclarer l'architecture cible, l'infrastructure cible de mon application. Et ensuite, ça, je vais pouvoir l'utiliser directement dans ma release.
Donc rassure-moi, dans le cas précis de Azure ARM, ces scripts JSON, on ne les tape pas à la main.
On ne les tape pas à la main. Effectivement, on a plusieurs choses pour faire ça. On a déjà un GitHub Azure Quick Start Template qui, je peux le montrer hein, d'ailleurs, GitHub Azure Quick Start Template, qui va nous fournir un certain nombre. Alors, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui parce qu'il y en a,
pas mal,
de plus
en
plus. Qui va nous fournir des templates de base qui vont aller de la simple web app jusqu'à du cluster haute dispo, MariaDB, ou plein de choses, l'Azure Container Services, si on a envie d'aller déployer des conteneurs. Donc on va retrouver énormément de templates ici qu'on va pouvoir soit réutiliser, soit potentiellement customiser. Et donc là, on a plusieurs solutions pour le faire, soit un outil en ligne qui s'appelle ARMViz, qui va me permettre de visualiser mon template et de l'éditer un petit peu, soit Visual Studio, qui fournit justement des outils et des assistants graphiques.
Pour, c'est Visual Studio que je pensais.
Voilà, pour éditer tout ça.
Ouais. Et justement, c'est l'occasion pour mes amis IT, plutôt Ops, de se familiariser un petit peu avec Visual Studio. C'est intéressant parce que définir, créer ces fichiers de JSON, c'est vraiment beaucoup plus intéressant avec Visual Studio.
Tout à fait. On est guidé, il y a des assistants qui nous permettent d'y aller.
De choisir dans des listes les éléments de ressources qu'on veut ajouter, etc.
Tout à fait.
Super.
Et donc, du coup, une fois qu'on a, j'en étais ici, packagé l'application et puis défini un petit peu tous les scripts d'infrastructure dont on va avoir besoin, on va pouvoir orchestrer le déploiement. Et pour ça, on a une fonctionnalité dans Visual Studio Team Service, toujours, qui s'appelle le Release Management, qui va me permettre de créer des définitions de release. Ces définitions de release, ça va ressembler un petit peu à ce que je t'ai montré l'autre jour quand on parlait d'intégration continue et de build, puisque concrètement, c'est des workflows, en fait. On va enchaîner un certain nombre d'étapes. Mais on va avoir un niveau en plus, puisqu'on va pouvoir définir des environnements cibles pour chaque étape ou méta-étape de mon workflow. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai trois environnements qui sont chacun composés de plus ou moins de tâches en fonction de ce que j'ai à faire. J'ai un premier environnement de développement, un environnement de pré-production et un environnement de production. On va commencer par le développement. Dans les tâches que j'ai créées ici, j'ai une première étape qui va être de créer un ressource group, donc qui est l'entité logique dans Azure pour regrouper toutes mes ressources. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser les fameux templates qui étaient en output de ma build. Donc, en gros, ici, si je regarde les artefacts, je suis venu lier ma build d'avant à ma release pour dire tout ce qui sort de cette build-là, en fait, je vais être capable de le réutiliser dans cette release. Et donc, si je regarde ici,
utiliser les outputs.
Au niveau du template, il va me proposer directement de parcourir l'output de ma build pour aller récupérer le fameux dossier drop et ensuite mon deployment package ou mes différents scripts, en l'occurrence ici, mon template de déploiement JSON. La même chose pour les paramètres.
Donc là, en fait, on crée le resource group, le groupe de ressources, et on déploie un modèle ARM à l'intérieur.
C'est exactement ça.
Avec les paramètres, le deuxième fichier JSON correspondant à l'environnement.
C'est exactement ça. Et donc ici, je précise la tâche. Donc ça, c'est une tâche qui est fournie indirectement par Visual Studio Team Service, que je vais utiliser Azure Resource Manager et que j'ai au préalable déclaré la souscription Azure sur laquelle je veux aller déployer. Que je veux utiliser celle-ci ici et créer un groupe de ressources qui va s'appeler vorlonjs-development-rg. Donc ça, c'est vraiment l'étape pure infrastructure. Ensuite, une fois que cette étape-là, elle est prête, je vais passer à la deuxième étape qui est le déploiement de l'application.
Oui.
Et donc là, j'utilise une autre tâche fournie par l'outil ici, qui est une tâche de déploiement d'application web où je vais en gros aller cette fois déployer le package qui a été généré par ma build. Donc là, je retrouve mon deployment package, qui est le zip que je crée lors de l'exécution de ma build d'intégration continue. Et je vais pouvoir faire ça pour chacun des environnements, avec plus ou moins de tâches ici.
Alors ces étapes-là, on voit bien à quoi ça correspond, hein, création de l'infra avec un ARM, un Azure Resource Manager template, et puis déploiement de l'application. Donc, parce que c'est une web app Azure, c'est ce mode de récupération du fichier zip, etc.
Oui.
Maintenant, toutes les applications ne sont pas des applications dans Azure, donc il y a plein d'autres cas. Comment on gère tous les autres cas qui ne sont pas vraiment dans le cadre Azure, Microsoft, etc.
Alors, effectivement, c'est une super question. Déjà, on a géré de base dans l'outil le fait de pouvoir travailler avec différents outils qui ne sont pas forcément les nôtres. On voit ici, je peux utiliser des tâches chef ou chef, ici en l'occurrence, pour tout ce qui est gestion d'environnement avec chef.
Ouais.
J'ai du Docker également, si j'ai envie d'aller créer des images Docker et de les déployer sur un autre Docker, quelque part, je peux le faire à partir de là.
D'accord.
Je vais pouvoir exécuter des scripts PowerShell, je vais pouvoir aller déployer des bases de données, des fichiers DACPAC sur des bases de données SQL Server. Et ensuite, donc ça c'est, on va dire, ce qu'on a prévu dans l'application, mais potentiellement je peux dire, je vais aller exécuter un script bash sur un serveur. Et donc là, à partir du moment où j'exécute un script bash, en fait je peux tout faire, puisque je peux tout scripter, de la même manière que je peux faire un script PowerShell, etc. Donc du coup, on va vraiment pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut dans cette étape de release management. Et là encore, comme la dernière fois, comme pour l'intégration continue, on va s'exécuter sur des agents, donc aussi bien Windows ou Linux, pour pouvoir exécuter telle ou telle tâche spécifique en fonction du besoin qu'on a.
Ok.
Donc vraiment une grande flexibilité au travers de ce qu'on veut déployer et où on veut déployer.
Ok.
Il y a un autre truc que je trouve intéressant quand on fait du release management et de l'infrastructure as code, c'est le concept d'infrastructure jetable. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est de dire qu'on est dans un workflow et qu'à partir du moment où j'ai validé une étape, j'ai pas forcément envie de conserver l'environnement qui était associé, parce que je n'ai pas envie de le payer, puisque ça ne sert à rien.
Cloud, tout coûte de l'argent. Donc,
voilà, tout coûte de l'argent. Et donc, du coup, ce qu'on va pouvoir faire aussi ici, si je regarde par exemple, pour la pré-production, c'est que la première chose que je vais faire quand je vais passer à l'étape de pré-production, c'est que je vais demander de supprimer le ressource group que j'ai créé avant. Donc du coup, ça va vraiment me permettre d'avoir mes différents environnements qui vont être associés à chaque équipe, qui vont avoir leur fonctionnalité qui leur est propre, leur définition aussi qui leur est propre, puisqu'en développement, potentiellement, je ne vais pas forcément avoir N serveurs, des load balancers, etc. pour héberger mon application. Chose que je peux avoir après sur un environnement où je vais vouloir faire du test de charge, par exemple, puisqu'il doit coller presque à 100% à l'infra de prod, sinon ce test-là ne sera pas représentatif. Et donc, du coup, je ne vais pas garder cet environnement doublé de la production et le payer pour rien quand je ne fais pas de test. Donc, du coup, je vais pouvoir, à chaque fois que je termine une étape, supprimer ce qui était là avant et puis continuer à avancer dans mes différents cycles.
Ok, d'où l'intérêt également du nouveau mode d'Azure de type ARM.
C'est ça. C'est
de supprimer le ressource grip, ça supprime tout ce qui est en dessous, donc voilà. Beaucoup plus simple.
Donc ça, c'est super important et du coup, autant l'utiliser. Puis là, en l'occurrence, ensuite, on va faire exactement la même chose. En production, j'ai un peu plus d'étapes puisque je viens exécuter un bout de PowerShell ici pour supprimer une fonctionnalité avant de déployer. Voilà, qui est spécifique à la production. Donc je peux vraiment, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que je peux vraiment composer mon workflow pour qu'il réponde à 100% à mes besoins. Et une fois que c'est fait, on a juste à le dérouler et ça marche. Il y a un autre point qui est important et dont on n'a pas parlé, c'est comment est-ce qu'on va enchaîner les déploiements entre les différents environnements. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on va pouvoir avoir des conditions au niveau du déploiement. Donc là, par exemple, ce que je vais dire, c'est qu'à chaque fois que je lance une release, je vais directement lancer le déploiement sur l'environnement de développement. Donc ça va être fait de manière automatisée. Et je vais avoir aucune approbation, c'est-à-dire que bon, c'est mon environnement de développement. C'est normal, s'il y a un problème, c'est pas très grave. C'est vraiment pour valider que tout se passe bien. Ensuite, quand je vais passer dans les autres environnements, je vais pouvoir être un petit peu plus réticent. Puisque là, typiquement, sur la pré-production, j'ai quand même envie de livrer quelque chose de qualité. Donc, je vais déjà pouvoir dire, OK, je vais quand même automatiser un certain nombre de choses. C'est-à-dire que dès que le déploiement s'est terminé dans l'environnement précédent dans le workflow, donc en l'occurrence ici, mon développement, je vais lancer la phase sur la pré-production. Mais par contre, je vais soumettre le déploiement à une approbation d'un utilisateur dans mon Active Directory. En l'occurrence ici, je vais devoir valider moi-même que je souhaite bien passer ce qui était en développement sur mon infrastructure de pré-production. Ce qui me permet quand même de conserver un certain contrôle et d'éviter qu'on ait, à cause d'une erreur ou d'une inattention, quelque chose, un bug en fait, qui arrive jusqu'à la production. Donc ça, je vais vraiment pouvoir moduler. Soit je fais ça de manière automatisée et je laisse filer jusqu'à un certain nombre d'environnements puisque c'est que du test automatisé et qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à avoir quelqu'un derrière. Et par contre, il y a un moment donné où je peux quand même mettre un jalon en disant attention, là je veux approuver parce que bah, on va quand même mettre ça en prod. Donc,
bien sûr.
C'est important. Et donc une fois que j'ai défini tout ça, je vais pouvoir lancer une release.
Je crois que tu l'as déjà fait.
Alors je l'ai déjà fait. Donc on va rafraîchir ici. Donc j'ai ma release 52. Ce que je peux voir ici, c'est que visuellement, je retrouve mes différents environnements. Donc le développement, la pré-production et la production. Et ce que je peux voir sur la release 52, c'est que bah, je ne suis pas allé encore jusqu'au bout. Donc on va aller regarder ce qui s'est passé.
Mais pourquoi donc ?
À l'intérieur. Et donc ce que je peux voir, c'est qu'en développement, j'ai bien eu un succès. Donc ça s'est bien passé. Et ici, il me dit, tu dois approuver le passage à l'étape suivante. Donc là, je vais pouvoir dire si je suis content ou pas content et approuver.
Donc en théorie, teste quand même que l'application fonctionne sur l'environnement de dev.
Et puis
une fois qu'on a vu ça,
une fois qu'on a vu ça, on approuve,
on valide
ou on rejette. En l'occurrence ici, je vais approuver. Et donc du coup, il va me déclencher la deuxième étape. Et comme pour les builds, en fait, je vais pouvoir aller suivre ce qui se passe en temps réel sur mon agent. Donc là, je peux voir tout ce qui s'est passé sur le déploiement en production. donc la récupération des différents artefacts, la création du ressource groupe, le déploiement de l'application, etc. Mm-hmm. Et là, bah, je peux suivre également ce qui est en train de se passer, et notamment ici, je peux voir qu'il est en train d'exécuter un script qui est en train de supprimer mon groupe de ressources que j'ai déployé juste avant. Donc là, je suis sur mon infrastructure jetable, je n'ai plus besoin de ce qui est en dev, je le supprime, et puis ensuite, je vais passer aux étapes suivantes.
Super.
Et donc là, une fois que j'aurai terminé tout ça, j'arriverai jusqu'à la production et j'aurai mon application qui est disponible avec plus ou moins de tests, de contrôles en fonction de jusqu'où j'ai voulu aller dans l'automatisation.
Super. J'imagine que cette phase de release management, c'est une phase dans laquelle les ops ont beaucoup un rôle important à jouer, en tout cas.
Ah, tout à fait.
La définition de ces tâches, de ces séquences de tâches, pour comment va se passer le déploiement en prod, en pré-prod, etc. Tout le monde va travailler ensemble là-dessus. Mmh. Donc c'est typique de l'intérêt de la démarche DevOps. Également, ce qui est intéressant, c'est que l'outil concrétise vraiment les principes du Continuous Integration, comme on a vu précédemment, et du Release Management, comme on a vu aujourd'hui. C'est vraiment très visuel et très concret. Mmh. Donc voilà. On ne peut qu'encourager les gens à aller jeter un œil sur les outils.
C'est vraiment un outil qui... Enfin, moi, je trouve ça génial. Mmh. Et juste pour revenir sur un truc dont je parlais tout à l'heure avant de terminer, si on se dit, on a un souci sur telle version qui a été compilée il y a 3 mois, je vais pouvoir venir ici créer une nouvelle release. Et en fait, je vais aller chercher la définition de la build que je veux redéployer. Donc là, j'ai travaillé pas très proprement, j'ai que les numéros de build, mais je pourrais avoir des labels qui me permettent d'identifier les versions et de dire, tiens, j'ai un client qui a un problème avec la version qu'on lui a déployée il y a 6 mois. Aujourd'hui, j'ai 6 mois de dev dans mon contrôle de code source, mon infrastructure a changé, etc. Ben, ce n'est pas un problème puisque je vais pouvoir venir chercher une build ici et relancer une release sur tel ou tel environnement.
Et la relancer.
Et relancer tout ça. Donc c'est vraiment là où on va avoir un vrai intérêt. C'est cet aspect de pouvoir revenir en arrière et redéployer n'importe quoi à tout moment. Quoi.
Et le n'importe quoi incluant l'infra et l'appli. Super. Ben, Julien, merci beaucoup de cette démonstration vraiment très concrète sur le release management. J'espère qu'on se verra une autre fois pour la suite des
avec
aventures
plaisir,
de DevOps.
De DevOps, ouais, tout à fait.
Il y a beaucoup de choses à dire. J'espère également qu'on se verra avec ton collègue Étienne qui a créé l'application,
qui a créé
l'application VolantJS qui viendra nous parler de cette application, je l'espère. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet technique dans Concrètement, que vous pouvez retrouver directement sur aka.ms/concrètement. Eh bien, Julien, merci et à bientôt.
Merci à toi.
Au revoir.